CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, notre thème du jour est « Pourquoi est-ce si important de se sanctifier ?» Moi, j'aime ce thème.
Semblerait.
Tu n'aimes pas, Frank ?
Non, je l'aime aussi beaucoup, Yveline. Que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient sanctifiés.
Amen, oh. Amen. La sanctification, c'est un thème important qu'il faut se rappeler régulièrement parce que c'est toute notre vie qu'on doit être sanctifié. Et Michael, tu penses que les gens ne savent peut-être pas ce qu'est la sanctification. Donc, on peut donner une petite définition pour commencer, si tu veux.
Synonyme de la sanctification, purifier, se purifier, être de plus en plus saint.
Oui, le dictionnaire Larousse dirait la sanctification, c'est le fait de se sanctifier.
Oh, excellent,
De devenir de plus en plus pur, de plus en plus saint,
voilà,
irréprochable devant Dieu.
Exactement, c'est bien dit.
C'est ça, et on insiste sur l'importance, hein. C'est pas seulement la sanctification, mais c'est important de se sanctifier, de jamais l'oublier.
Exactement.
Donc une piqûre de rappel aujourd'hui.
Une piqûre de rappel qui fera du bien à tout le monde. Et Jonathan, tu vas répondre à une question dans Pasteur, j'ai une question. Oui. Je suis leader de louange et j'ai un problème de non-pardon. Dois-je arrêter de servir ?
C'est pas compliqué, c'est une réponse en un mot. C'est soit oui, soit non.
Ah d'accord, il n'y aura pas de trop de discussion.
Bien, hein.
Bon, bah, on va couper un petit peu la rubrique. Annabelle, tu auras plus de temps pour la rubrique culture et médias parce que tu remplaces Nadine toute la semaine.
Oui, et on va parler des événements jeunesse parce que les jeunes aussi ont besoin de se sanctifier et les réunions, les rassemblements de jeunes, ouais. Je crois que c'est vraiment une bonne piqûre de rappel, je dirais, pour eux. Et donc, on va parler de tout ce qui va se dérouler dans les semaines et les mois à venir pour nos jeunes.
Ah, ça, c'est bien, des bonnes réunions de jeunesse, c'est toujours excellent. Allez, on commence tout de suite notre émission sur la sanctification dans la pensée du jour.
La sanctification n'est pas une option. On peut croire ou on a pu croire peut-être à cause de certains enseignements ou de certaines choses que nous-mêmes, on a pu essayer de se faire croire que la sanctification, c'était un domaine dans la vie chrétienne. Mais la sanctification, c'est le fait de marcher dans la sainteté, dans la purification acquise par Jésus-Christ. Son sang a coulé pour vous, pour moi, afin que nous puissions marcher dans cette sanctification et nous ne pouvons juste pas la mépriser ou la mettre de côté, nous disant « c'est pas très important ». Et j'aimerais vous lire ce verset dans Hébreux 10 au verset 26. « En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. » Et je continuerai au verset 29. « À votre avis, si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang de l'Alliance, par lequel il a été purifié, si l'outrage le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore ? » Et ce passage-là n'est pas là pour nous condamner, nous faire peur, mais pour nous montrer l'importance de la sanctification. Mmh. Nous montrer que lorsqu'on refuse cette sanctification, finalement, nous sommes en train de mépriser le sang de Jésus-Christ. Et je crois que ce n'est pas votre désir que de mépriser le sang de Jésus-Christ. Je crois que ce n'est pas votre désir que de ne pas marcher dans la vérité alors que vous connaissez la vérité, que votre cœur aspire à la sanctification et que en fait aujourd'hui, oui, c'est une décision que vous devez, que vous pouvez prendre de dire je ne veux plus mépriser le sang de Jésus-Christ, je crois que ce sang m'a purifié et je veux me rester dans cet état de pureté, dans cet état de sainteté. La Bible dit que je suis saint car Dieu est saint. C'est votre identité, c'est votre partage, c'est votre héritage. Et la sanctification, c'est tout un processus d'une vie. Il y a une croissance qui est possible dans la sanctification, mais c'est une décision, comme je l'ai dit, et c'est aussi comme une hygiène spirituelle. On ne veut pas laisser la crasse s'entasser, on veut dans nos âmes, dans nos façons de penser, dans nos corps, dans nos habitudes de vie. Nous voulons vivre cette douche spirituelle tous les jours de notre vie et marcher dans la sanctification afin de pouvoir honorer le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour vous et pour moi.
Amen, amen. C'est trop souvent, je trouve, méprisé la sanctification et j'ai l'impression que plus les années passent, plus les générations avancent, plus la sanctification devient un petit peu optionnelle. Alors, je vais peut-être paraître un petit peu vieux jeu, mais moi, quand je lis des biographies d'hommes, de femmes de Dieu, et j'aime énormément lire ce genre de livres, ce qui me frappe toujours, c'est leur attention particulière à la sanctification. Ouais. C'était très, très strict. Alors, on va me dire, oui, mais c'était la vieille école, c'était à l'époque et tout ça. Mais la Bible n'a absolument pas changé, que ce soit dans les années passées ou aujourd'hui, c'est la même Bible. Mmh. Et ce qu'elle dit n'a absolument pas changé. Mmh. Et honnêtement, je trouve que de nos jours, il y a vraiment un laisser-aller au niveau de la sanctification. Et si j'aime autant ce thème, c'est parce que je crois que c'est important d'en parler. Je crois que si on veut être utilisé par le Seigneur, si on veut que vraiment le Seigneur puisse se glorifier dans nos vies, la sanctification n'est absolument pas une option. On va regarder notre verset du jour qui est dans 2 Corinthiens 7 au verset 1. « Purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. » Et si on regarde le verset précédent, les versets, excusez-moi, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous conseillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Il y a une promesse qui est liée à la sanctification. On sera des fils et des filles.
Et on a une définition avec ce lien entre ces deux versets, puisque c'est donc poursuivez et puis purifier, mais c'est aussi donc chercher la sainteté. Mmh. Et après, c'est pourquoi séparez-vous. Mmh. Parce que la sanctification, c'est se séparer, c'est être mis à part. Mmh. Quand Dieu déclare son peuple saint, c'est parce que c'est un peuple qui n'est pas comme les autres. Il est mis à part. Quand il sanctifie tel ou tel objet pour le tabernacle, c'est parce qu'il est mis à part. Mm-hmm. Quand une vie est sanctifiée, c'est parce qu'elle est mise à part.
Amen.
Et peut-être qu'aujourd'hui, des fois, certains vont remettre en cause un peu la sanctification parce que on est trop dans le détail technique, peut-être, en disant j'ai le droit de ceci, j'ai pas le droit de cela, alors que c'est pas ça. Mm. La question, c'est on doit être à part. Et la sanctification, c'est donc être pour Dieu à part, en dehors du monde, et pour Dieu. Et on ne peut pas être entre les deux.
Mm-hmm.
Donc, la sanctification, c'est s'éloigner du monde pour être plus près de Dieu. Ce n'est pas plus compliqué que ça.
Et une chose aussi, c'est qu'on a souvent réduit la sanctification à l'absence de péché sexuel, Annabelle. On a juste dit, c'est juste ça. Est-ce que la sanctification, c'est juste ça ?
Non, et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que la sanctification, c'est devenu comme un sujet secondaire, parce que si tu n'as pas de problème d'impureté, de péché sexuel, c'est que t'es saint, pas du tout. La sanctification, ça touche le corps, l'âme, notre esprit est parfait, le corps et l'âme. Et en fait, si on a des problèmes de colère, des problèmes de jalousie, de médisance, d'insoumission, de rébellion, on a besoin d'être sanctifié. Donc, ça vient toucher tous les domaines de notre vie. Et c'est sûr que d'omettre tout ce qui est péché sexuel, etc., c'est une erreur, mais de mettre la sanctification dans la sanctification que les péchés sexuels, c'est embêtant parce que ça va faire de nous des chrétiens complètement charnels et tout. C'est sûr, il y aura peut-être pas de péché sexuel, mais alors à côté de ça, il y aura des débordements à tous les niveaux. Et si je puis me permettre, comme tu disais, la sanctification, c'est devenu un peu secondaire quelquefois. Mais je crois qu'il y a des générations qui ont essayé de vivre la sanctification, mais sans le Saint-Esprit. Et quand t'enlèves la vie de l'Esprit, ça devient, c'est vrai, du légalisme et c'est difficile, c'est de la religion, c'est il faut pas, puis d'une année à l'autre, d'une personne à l'autre, les règles changent en fait, et du coup c'est sans la vie de l'esprit, si on n'entretient pas, je crois, une vie de l'esprit, la sanctification, c'est quelque chose qui va venir, qu'on va faire avec nos propres forces, nos propres efforts.
C'est vrai.
Et vu que des générations ou des mouvements ou des familles, enfin bref, des gens ont échoué dans la sanctification, on a rabaissé le niveau de sanctification à ce que nous on est capable de faire en tant que homme et femme mais si on vit la sanctification avec la vie de l'esprit, la sanctification est une liberté.
Mmh. Amen.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est que la sanctification et on sait que de moins en moins dans peut-être certains milieux ou certaines églises, t'entends plus parler forcément du sang de Jésus, t'entends plus parler forcément du mot diable, sainteté, sanctification, parce que c'est peut-être moins à la mode, ou t'essaies de la porter d'une façon cool et tout ça. quand que lorsque je regarde à la parole de Dieu, peut-être la chose, peut-être qui caractérise le plus Dieu, c'est qu'il est trois fois saint.
Amen.
Tu te dis, c'est tellement puissant. Et quand les gens se retrouvaient dans la présence de Jésus, quand ils étaient ravis en esprit ou quoi que ce soit, Ésaïe, ils disaient, mais je suis impur. Il comprenait à quel point il était. Nous, on sait, on était régénérés, oui, le Saint-Esprit, tout ça. Mais il y a comme une espèce de... C'est après devenir à l'extrême, caché sous le prétexte de la grâce. C'est vraiment délicat et il faut savoir comment gérer la sanctification par rapport à la grâce. Et aujourd'hui, je pense que ça s'en va vers la grâce et puis j'ai tombé, puis ça fait pas grand chose. Et puis ça dérange plus forcément les gens, soit de vivre un peu dans le péché ou de c'est pas si grave. Mais la mentalité et puis la crainte de Dieu est manquante en fait.
Ah, oui.
Et puis quand tu parles de sanctification, tu parles de crainte de Dieu, tu comprends qui il est, sa sainteté. Et oui, la parole nous dit « Soyez saints, car je suis saint ». Ça, c'est vrai. Et on doit rechercher ça tout au long de notre vie. C'est vraiment pas une option, en fait.
Mm-hmm.
C'est quelque chose que, jusqu'à la fin de notre vie, on va être appelé à se sanctifier davantage. Et ça, c'est sûr. C'est sûr, le mot, pour certaines personnes, ça fait un peu peur, où ils disent « Mais c'est quoi ce truc-là? C'est plus religieux, comme Jonathan disait. » Mais le mot « strongs », quand j'avais étudié la sanctification, c'était vraiment se séparer des choses profanes de ce monde. C'est-à-dire, oui, mis à part. Et puis, il y a des façons de faire, des façons de penser, d'agir et tout ça. Mais toi, tu es appelé à être mis à part.
Mm-hmm.
Pour moi, c'est comme ça que je le vois aussi, vraiment. C'est très bien comme Jonathan le dit.
Et les standards de Dieu sont hauts.
Ouais,
être saint comme Dieu est saint.
Ouais.
Et même être parfait comme Dieu est parfait. Donc, il ne faut pas réduire les standards en disant, parce qu'on n'y arrive pas, on va réduire un peu les exigences, parce que ce n'est pas le plan de Dieu.
C'est ça, c'est vraiment, c'est une façon de vivre, en fait, qui doit être développée. Il y a des choses, en fait, qu'en tant que chrétien, on ne peut pas accepter, tolérer, que ce soit en nous ou que ce soit fait en notre présence aussi. Ça peut être des discussions, ça peut être des films ou de la musique ou différentes choses.
Ouais.
Il y a des choses qu'on ne doit pas être capable d'accepter. C'est pas juste on s'empêche de le faire parce que, oh non, c'est pas bien, il faut pas. Mais c'est parce que à l'intérieur de nous, il y a un malaise, il y a quelque chose qui n'est pas accepté. Parce qu'Annabelle, c'est pas juste du légalisme, de la religion. La sanctification, c'est plus que ça.
Oui, c'est plus que ça.
Je te rappelle que c'est un de tes points que tu avais envie d'élaborer dans ce discours.
C'est parce que j'étais perdue dans un autre point. Mais
vas-y, tu peux aller sur le point que tu veux.
Non, mais pour en revenir à ça, c'est que c'est un privilège. C'est un privilège que de pouvoir cultiver la présence de Dieu. Et la sanctification, ça va nous protéger, ça va mettre des limites au péché. On ne veut pas pécher, mais on ne veut pas non plus vivre au milieu du péché et puis être totalement indifférent et devenir tiède, que ça devienne normal. Et par exemple, chez moi, dans ma maison, j'en fais pas une doctrine, mais je dis que chez moi, je ne veux pas qu'on écoute de musique du monde. Pourquoi je ne veux pas qu'on écoute de musique du monde? Parce que c'est une maison dans laquelle on prie, on déclare la parole de Dieu, on déclare des paroles de foi, on s'enseigne, on s'encourage, on lit la parole de Dieu et on veut vraiment cultiver la présence de Dieu dans notre maison. Et lorsque j'entends certaines musiques qui disent des choses qui sont complètement contraires à ce que je peux lire dans ma Bible, j'ai l'impression qu'on vient annuler, qu'on vient salir. C'est comme tu viens de faire ton grand ménage et puis là tu rentres toi-même avec tes grosses chaussures toutes sales chez toi. C'est comme, pourquoi est-ce que tu gâches ton travail? Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc c'est sûr que en ce qui concerne pour moi la sanctification, c'est un privilège. Je le vis pas comme un légalisme. Je n'ai pas le droit d'écouter. C'est, je ne veux pas parce que je pense que j'ai trouvé quelque chose de plus précieux, quelque chose de plus beau, quelque chose de plus pur. Et du coup, j'ai pas besoin de ces choses-là. Donc faut pas le voir comme une punition, comme une restriction, mais comme un privilège parce qu'on a trouvé quelque chose de précieux.
C'est tes désirs qui se porte vers autre chose.
Et c'est sûr qu'on est dans un monde complexe parce que c'est difficile d'être... Enfin, on cherche la pureté, mais on est dans un monde impur.
Ouais.
Si tu vas à l'épicerie ou dans un magasin de vêtements, il va y avoir une musique qui va passer dans les haut-parleurs.
Mais je casse tout, Jonathan.
Je me bouche les oreilles, je les écouteurs.
Alléluia, alléluia.
Ou quelqu'un qui conduit, puis il y a une affiche pour une publicité de je sais pas quoi, il ferme les yeux, mais regarde ta route aussi. Hein.
Ah ouais.
Donc on est dans un monde où il y a de l'impureté autour de nous.
Bien sûr.
Alors c'est limiter l'accès de tout ça, mais c'est aussi contrôler son cœur.
Ouais.
C'est-à-dire que on peut, même si on passe dans la rue puis qu'il y a une affiche qui est là, bon, on ne va pas s'arrêter pour observer ce qui se passe, mais même si l'image est passée rapidement, bah, protéger son cœur pour dire je ne veux pas que ça rentre.
Oui.
Il faut que, comme, on dit, comme dit l'adage, que ça coule comme de l'eau sur les plumes du canard.
Oh, donc, c'est très joliment dit.
Que ça vienne, on me dit, bon, on a entendu quelque chose, quelqu'un a dit une parole grossière, bon, on ne veut pas se tenir en compagnie de gens qui vont forcément dire des choses sales, mais à un moment donné, ça peut arriver que ça passe, on est à côté d'une conversation, ben, on fait attention à ce que ça ne rentre pas.
Mm-hmm.
Et c'est ça aussi la sanctification.
Mm-hmm. Tout à fait.
Et pour rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure, qui est vraiment important, c'est que on ne se sanctifie pas par devoir, parce que il faut se sanctifier, mais parce que notre nature fait qu'on se sanctifie. C'est vraiment par nature, c'est ce qui fait un chrétien a reçu le Saint-Esprit. Ézéchiel 36 au verset 27 dit: je mettrai mon esprit en vous et je ferai, certaines versions dit ainsi vous, et je ferai en sorte que vous suivrez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc finalement on parle de se sanctifier, mais en réalité c'est Dieu qui nous sanctifie. C'est la nature de Dieu en nous qui nous sanctifie. Paul disait: je veux faire le bien, mais je fais le mal, et le mal que je ne veux pas faire, et le bien que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire. Et qui me libérera de ça? Parce qu'en moi, j'ai pas la force. Et il va dire: gloire soit rendue à l'esprit de vie de Jésus-Christ qui habite en nous, qui nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Et s'il y a bien une chose que j'ai constatée, c'est que si on est un chrétien et qu'on a le Saint-Esprit et qu'on a une relation juste normale, basique, le minimum avec Dieu, authentique, avec sa parole, dans la prière, ben en fait, on n'est pas là à résister à la tentation. On n'est pas là à se dire: ah, je veux pas mentir, ah, je veux pas pécher, ah, je veux pas faire ce qui est mal. On n'en a tout simplement pas envie. Parce que par nature, on ne pêche pas. Et c'est la vie du Saint-Esprit en nous qui fait. C'est pour ça que la Bible dit: c'est Dieu qui nous sanctifie lui-même.
Amen.
La question, c'est: est-ce qu'on veut ou qu'on ne veut pas? Et on accuse le diable, on accuse les démons. Oui, c'est à cause du démon. La réalité, c'est que si on est né de nouveau, bien souvent, c'est parce qu'on ne veut pas se sanctifier. On veut aller dans les désirs mauvais, la chair, etc. Mais là, on se trompe. Donc, si on laisse la vie de Dieu simplement couler, on vit une vie de sanctification. C'est juste naturel. C'est pour ça que Jésus a dit: je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. L'accomplir par ma vie en vous. Quand le Saint-Esprit est là, on ne ment plus, on n'aime plus ces choses. On n'est plus attiré par ce qui est mal. C'est pas parce qu'on a appris, pas parce qu'à l'église on nous a dit c'est mal de regarder des trucs, c'est mal. C'est parce que à l'intérieur de nous il se passe comme un dégoût. C'est comme un poisson, on le sort de l'eau, il a l'impression de mourir. Un chrétien,
pas seulement l'impression, il va mourir. Hein.
Et voilà aussi pourquoi c'est important c'est de se sanctifier.
Quand j'en attrape, c'est long.
C'est ça. Et oui, bah, pour revenir sur ce point du poisson, c'est important qu'on en parle. Mais c'est un grand débat. Mais moi, je fais partie de ceux qui croient que le chrétien né de nouveau, qui comme le poisson reste hors de l'eau, dans le péché, il joue avec le feu parce qu'à un moment donné, il pourra peut-être plus revenir en arrière et il sera trop tard.
Ouais.
Et là, on retombe sur ce verset: rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, laissons simplement, ayons cette relation avec Dieu et soyons simplement ce que nous sommes et n'essayons pas d'être ce que le monde est. Cette vie s'exprimer et on sera saint.
C'est ça, c'est qu'il faut comprendre que notre nature a été changée. Et quand ta nature change, ta nature est attirée vers certaines choses. Et notre nature, qui est spirituelle, qui est remplie de l'esprit, est attirée vers ce qui est saint, vers ce qui est pur, ce qui est beau, ce qui plaît à Dieu. Mais le problème, c'est que, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui disent, oui, peut-être vous dites ça, mais moi, je ressens pas de dégoût si je regarde un film bizarre ou quand j'entends de la musique du monde ou je ne sais quoi.
Mais ce qui est né de la chair va rechercher les choses charnelles, et ce qui est né de l'esprit va rechercher les choses spirituelles. Mais il faut comprendre aussi qu'on n'est pas tous au même stade.
Oui.
Et qu'il y a une progression, et qu'il y a un problème. Parce que des fois, on va dire, mais moi, quand je fais ça, ça m'horripile. Toi, pourquoi? Ça n'a pas l'air de te déranger. Parce qu'il faut apprendre qu'on est tous en progrès, puis on doit avancer, hein, évidemment.
Mais oui.
Il ne faut pas rester dans ce stade. Et peut-être que quelqu'un, il va dire, mais moi, si je bois de la bière, je me sens mal. Et d'autres vont dire, moi, j'ai aucun problème à boire de la bière. Et c'est correct. Ce qui est important, c'est de faire ce que l'Esprit de Dieu met dans notre cœur. On a parlé de la conscience il y a quelque temps. Et de dire, ben, c'est ça la sanctification. C'est ne pas être contraire à la voix de l'Esprit et à la nature de Dieu qui est en nous. Heureusement que Dieu ne nous dit pas tout ce qu'il faut changer, parce que là, on aurait une liste. D'accord. Alors, on va commencer par les choses. Je me souviens qu'il y a... Il y a quelques années, il y avait une jeune fille qui venait avec un piercing sur la langue et qui voulait se faire baptiser dans l'église. Il y en a qui disaient « Non, mais ça ne marche pas, et la sanctification, comment est-ce qu'on fait ?» Je dis « Non, non, moi, je n'en ai même pas parlé. » Et on l'a accueillie, elle a fait du cheminement avec le Seigneur jusqu'à un jour où elle est venue en disant « Ce matin, quand j'ai prié, je sentis qu'il fallait que je l'enlève et que ce n'était pas sa place. » Mais ce n'est pas quelque chose qu'on lui a dit « Il faut que tu enlèves ceci et cela. » Mais il y a un stade. Il y a des progrès à faire. Alors, si quelqu'un a 20 ans, 15 ans, 10 ans de vie chrétienne ou plus encore, eh bien, qu'il soit davantage sanctifié, tant mieux, il le faut et on le souhaite. Si quelqu'un, eh bien, vient tout juste de mettre les pieds à l'église et puis vous voulez qu'il change sa coupe de cheveux ou sa façon de s'habiller, ben, laissez-lui le temps de déjà régler les problèmes qui sont peut-être plus importants que ça, et puis de se sanctifier ainsi.
Exactement. Faut être vraiment à l'écoute du Saint-Esprit. Vous avez tous envie de parler, vous vous regardez, lequel va se jeter sur la parole en premier.
Je pense que ça va être Annabelle.
Non, vas-y
Annabelle, vas-y.
Ok, je vais juste lire un verset.
Lis-le.
Par rapport à la progression, parce que je crois que la sanctification, c'est vraiment une décision qu'on prend. Mais que dans ces décisions, oui, il y a vraiment de la progression et c'est normal, il faut rechercher cette progression. C'est pas normal qu'on soit au même degré de sanctification qu'il y a 10 ans. Il y a des choses qui doivent changer, c'est certain.
C'est
plus on s'approche de Dieu, plus on est rempli de sa pensée, plus on comprend mieux ce qu'il veut nous dire, etc. Donc c'est normal. Et dans 1 Thessaloniciens 4, on lit au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès, et qu'on peut être là, ce que je veux dire, c'est qu'on peut être un chrétien mature, un chrétien qui va bien dans sa vie chrétienne et on est proche de Dieu. Mais la Bible nous encourage à toujours faire des progrès et à chercher à grandir dans notre sanctification. Donc, de dire, on a peut-être, il y a des gens qui ont suivi cette discussion, ils se disent, oui, bah non, moi, ça va bien dans ma vie chrétienne. Bah, en fait, même si ça va bien, justement, parce que ça va bien, on a envie de progresser dans notre sanctification. Donc, c'était ça, Frank.
Ah ben, je vais parler.
C'était le mot de la fin, je pensais, mais apparemment, t'as décidé que Frank pouvait parler.
C'est fini, hein. Moi, je me ferme. Vas-y, Evelyne.
Vas-y, tu peux, mais très rapidement.
Non, j'ai rien à dire, c'est trop rapide. Demain.
D'accord, ok. J'ai rien à dire.
Okay. La suite, dans un prochain
On fera une autre émission sur la sanctification.
Oh, t'inquiète pas, j'aime tellement ça. Tu reviens toujours.
Je te réinviterai, en tout cas.
Te réinviterai, ok. Jonathan, je me tourne vers toi. Oui. Donc, on a reçu une question de Lucie de Belgique, qui est leader de louanges, et elle dit qu'elle a donc un problème de non-pardon. Est-ce qu'elle doit arrêter de servir, donc autrement dit, est-ce qu'elle doit arrêter d'être impliquée dans le groupe de louanges et d'être leader dans le groupe de louanges?
Alors voilà, ben, si elle a entendu le début de cette émission, elle devra avoir sa réponse.
Frank, tu peux parler.
la réponse...
Pour le monde tambour, c'est...
La réponse, il y a un problème, oui. Parce que si on sait qu'on doit pardonner et qu'on ne pardonne pas, il y a un problème. Jésus dit, si tu vas à l'autel présenter ton offrande et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, tu vas d'abord te réconcilier avant de présenter ton offrande. Et à plus forte raison, quand on est dans la louange et quand on veut donc amener, non seulement louer Dieu nous-mêmes, mais amener le peuple de Dieu dans la louange, il faut à plus forte raison, avant de vouloir apporter à Dieu notre louange, notre reconnaissance, nos actions de grâce, eh bien, s'il y a quelque chose qui doit être réglé, il faut le faire. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tous les conducteurs de louanges, tous les leaders de louanges sont parfaits? Non, je ne pense pas. Mais il y en a qui ne savent pas encore ce qu'il faut régler, mais le Seigneur va leur montrer en cours de route. Il y en a qui ont peut-être besoin de pardonner à quelqu'un, mais ils ne le savent pas. Le problème, c'est quand on sait et quand on ne le fait pas. C'est là qu'on est coupable. Si Lucie nous dit « j'ai un problème de non-pardon », ben, il faut régler ce problème. Je ramène aux lettres, aux épîtres dans l'Apocalypse, aux sept églises de l'Apocalypse, où on retrouve assez souvent cette parole de Jésus, mais ce que j'ai contre toi. Mais ce que j'ai contre toi. Et je reviens avec cette parole de Jésus que dans l'Évangile, si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi Et si c'est Jésus qui a quelque chose contre toi, et que tu viens présenter à l'offrande, eh bien, ta louange, ta prière et puis ton culte, mais que Jésus a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avant de venir devant le Père pour lui amener ce que tu as.
Amen.
Donc, oui, on ne peut pas rabaisser les standards en disant « c'est pas bien grave, bon, ben, si c'est la belle-mère, ça marche, si c'est, ça dépend, on ne sait pas avec qui ». Mais non, oui, alors, c'est pas la réponse, la troisième ligne, ce n'est pas la bonne non plus. Ce n'est pas « dois-je arrêter de servir ?» Ce n'est pas ça la question. Ouais. La question, c'est, il faut que je pardonne.
C'est ça.
C'est pas, j'arrête de servir et je continue à ne pas pardonner. Non, c'est tu pardonnes et tu continues
et tu
à servir.
Amen.
Et voilà.
Amen. Affaire classée, c'est pas si compliqué quand même. Ben voilà.
Moi, j'aurais une question pour un prochain pasteur, une question.
Tu peux écrire à l'adresse pasteurjayunequestion@emcitv.com.
Pourquoi Lucie a envoyé la question et n'est pas allée pardonner, voir cette personne pour se réconcilier et pardonner?
Ben, désormais, elle va le faire parce qu'elle a eu la réponse à sa question.
Non, mais c'est parce que bien souvent, dans ce genre d'affaires, on a l'impression que le cas est désespéré et de dire, ben non, bon, pardonner à quelqu'un, oui, on peut pardonner certaines affaires, mais là, c'est trop.
C'est ça.
Et on a toujours l'impression qu'il y a des situations où c'est trop gros pour pardonner. J'ai un problème de non-pardon, donc elle sait qu'elle doit pardonner, qu'elle ne pardonne pas, mais c'est comme si c'est de dire, mais là, vous ne pouvez pas me comprendre, personne m'a fait, mais c'est trop gros. Mais Jésus nous a pardonné.
Amen.
Et nous, on en a fait plus. Mm. Quelque part, c'est la parabole du serviteur impitoyable, de celui à qui on a remis la grande dette, et celui qui avait un débiteur d'un plus petit montant, eh bien, va continuer. Ben, c'est ça, il ne faut pas être ce serviteur impitoyable. Lui, il nous a remis notre offense et nous, on doit remettre les offenses qu'on nous a faites, quelles qu'elles soient.
Amen, amen. Merci Jonathan pour cette excellente réponse. On continue maintenant notre émission avec la rubrique Culture et Médias. Donc Annabelle, c'est une coïncidence totale que nous parlions de la jeunesse juste après un thème sur la sanctification. Mmh. Que veux-tu ? Tu vas nous parler de différents rassemblements de jeunesse à travers notre belle francophonie.
Oui, alors la première rencontre dont j'aimerais parler, c'est The Rencontre avec un Z. The Rencontre qui aura lieu du 19 au 22 avril, donc c'est juste là dans quelques jours finalement, qui a lieu à Mulhouse. C'est l'église Portes Ouvertes Chrétiennes de Mulhouse qui accueille cet événement et ce sont pour les jeunes de 15 ans à 35 ans, pardon, et on peut regarder la petite vidéo.
Il est temps que tu te positionnes pour moi complètement. Ce soir, je t'appelle à une reconsécration totale. Je vais te délivrer parce que je t'aime. Et toi, je te demande de me suivre totalement.
Oui, donc c'est gratuit en plus.
En plus.
Oui, c'est gratuit, c'est plusieurs jours, faites le calcul, 3 jours du 19 au 22 avril, c'est gratuit, c'est des réunions de puissance. On voit assez souvent des temps de reconsécration et moi j'ai entendu plusieurs témoignages de moins jeunes maintenant, mais qui ont participé à ce rassemblement, à ce rencontre et qui ont vraiment été touchés. C'est des temps où les jeunes sont visités, prennent des décisions, notamment par rapport à la sanctification. Donc ça se passe à Mulhouse du 19 au 22 avril et c'est pour les 15 à 35 ans et c'est gratuit. On a aussi une autre rencontre qui s'appelle Rencontre Jeunesse. Donc ça, c'est la RJ, connue sous le nom de RJ, qui a lieu en Suisse.
À Bulle. Ouhou, Bulle la Suisse.
Ça me fait rire, Bulle. Excusez-moi. Mais ça a lieu donc en Suisse. Et on peut regarder aussi tout de suite la petite vidéo. Alors, c'est un rassemblement qui existe depuis 1993. Ça a commencé avec 150 jeunes. Moi, j'en ai beaucoup aussi entendu parler. Mmh. Beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, à la RJ, il s'est passé ci, à la RJ, il s'est passé ça. On s'est rencontrés à la RJ, on s'est mariés depuis.
On s'est mariés à la RJ.
Et aujourd'hui, écoute.
Toutes les occasions sont bonnes.
Et aujourd'hui, c'est plus de 3000 jeunes qui se réunissent. Et cette année, donc, ça a lieu du 3 au 5 mai 2019. Et c'est pour les 12 à 27 ans. Mais il précise que ça peut être quand même ouvert à tous. Donc, si on se sent jeune, apparemment, c'est ouvert à tous de 12 à 27 ans. Et on peut aller sur le site rencontredejeunesse.ch et il y a tous les prix parce qu'il y a différents forfaits, il y a des hébergements, il y a des repas, etc. Puis en allant sur le site, j'ai vu, il crée tout un univers. Il y a un fun park, je ne sais pas exactement ce que c'est.
Bah, c'est
mais,
fun.
Ouais, voilà, c'est fun. C'est vraiment deux jours en immersion totale avec des jeunes et des jeunes chrétiens qui veulent changer le thème cette année, c'est « Change-moi ». Et donc, il y a différents invités aussi. On a vu David Potier du Canada, Ils sont France, CDV Neuchâtel, Mathéus Van Der Steen. Ça se dit comme ça ? Oh, personne ne le sait, c'est bien.
Anne
n'est pas là. Mathéus, je le sens bien en tout cas. Et il y a beaucoup de baptêmes de du Saint-Esprit, des délivrances, des saluts. Donc ça vaut la peine pour tous nos amis suisses. Rencontredejeunesse.ch et allez voir toutes les informations. Il y a encore temps de vous inscrire, mais il faut se dépêcher.
Tu nous as donné les dates?
Oui, oui, du 3
absolument.
Au 5 mai.
Excusez-moi. Écoutez,
j'étais tellement concentrée.
On a aussi un autre rassemblement qui se déroule à Cotonou, au Bénin. Le rassemblement Effusion, voilà. Effusion qui a fait une première édition en 2017. Et en fait, ça a attiré 15 000 jeunes sur 5 jours.
Wow.
Alors, ce qui est quand même assez énorme, 15 000 jeunes. Et cette année, ils le refont. On n'a pas encore les dates. Mais tenez-vous informés, allez voir sur leur page Facebook Effusion avec un Z. C'est très à la mode le Z. pour voir quand auront lieu les prochaines dates, mais ce sera au Bénin à Cotonou. Oh là là, moi j'ai du coton dans la bouche en tout cas. Et il y a c'est toute une conférence, on va parler d'art, sport, musique, politique, leadership, mais Effusion c'est aussi une effusion du Saint-Esprit, les jeunes qui sont visités et on peut aller voir sur leur page Facebook différents témoignages de ce qui s'est passé en 2017 et il y en a plusieurs qui disent ça a vraiment été un point de départ pour moi, soit ils ont accepté le Seigneur ou ils sont passés à une nouvelle dimension, ça a vraiment marqué un nouveau départ pour et un bon départ. Donc ça c'est donc au Bénin, comme je l'ai dit, ce sera cet été. Dernière rencontre dont on va parler aujourd'hui, il y en a sûrement d'autres, mais c'est la rencontre Page qui a lieu à Paris, à Longjumeau. Et celle-ci aura lieu du 19 au 21 avril. Alors, c'est beaucoup de louanges. Alors, pour ceux qui aiment la louange, ceux qui veulent participer peut-être à un événement plus louange, c'est votre événement Page du 19 au 21 avril 2019. C'est pour les 12 ans et plus. Et il y aura Manou, Jean-Jean, Mathieu Thoman aussi qui seront là. Et là aussi, je vous conseille d'aller directement sur leur site, Page, PAJE.Paris, et vous aurez toutes les informations sur les tarifs, les options, etc. Parce que là encore, il y a des possibilités de repas et tout. Donc, je ne vous en parlerai pas ici aujourd'hui. Mais donc, 19 au 21 avril, et c'est là aussi, c'est bientôt, bientôt. Mais c'est toujours le moment de prendre une bonne décision et de vous inscrire à un de ces événements ou d'inviter vos enfants à participer à un de ces événements.
Ou tous, si vous le voulez.
Ou tous, si vous voulez.
Il y en a deux qui sont en même temps, donc ça va être
un enfant dans chaque.
Ça, c'est le week-end de Pâques, en fait.
Oui, c'est Pâques.
Donc,
c'est...
les gens ont plus de vacances. Souvent, les jeunes, peut-être, qui n'ont pas compris, ceux qui regardent.
Ah, c'est bien de le préciser. C'est très bien. Merci de nous rappeler les dates de Pâques, effectivement. Merci, Annabelle. Tu avais autre chose à nous dire ?
Bah, j'ai envie de dire que les rencontres jeunesse, c'est hyper fort, ouais. C'est hyper puissant. Et à la fois, nos jeunes, quelquefois, sont dans leurs écoles, ils vivent beaucoup de choses. Et... autant l'oppression peut être très forte quand ils sont dans leur école, autant l'action du Saint-Esprit peut être très forte quand ils sont rassemblés ensemble, parce qu'ils sont là parce qu'ils ont soif. En fait, ils n'aiment pas leur vie, ils n'aiment pas comment ils vivent leur vie, ils veulent plus de Dieu, ils aiment le Seigneur. Et c'est en tant que parents aussi leur donner la possibilité d'y aller. Quelquefois, c'est un sacrifice financier, c'est un changement de plan, c'est du transport, etc. Mais ça vaut la peine parce que nos jeunes ont besoin de vivre ces choses-là.
Exactement.
Et pour des jeunes qui sont à l'église ou dans des familles chrétiennes, ils ont souvent l'impression d'être isolés ils sont à l'école ou quand ils sont dans leur quartier, dans leur ville, dans leur cité. Ils ont l'impression d'être les seuls chrétiens, les seuls différents des autres, les seuls saints, mis à part ou sanctifiés, si on veut. Mais en allant dans des rencontres comme ça, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls.
Vraiment.
Et qu'il n'y en a pas juste deux ou trois comme eux, mais qu'il y en a des centaines, des milliers. Et donc de dire, waouh, je ne suis pas le seul à me tenir pour Jésus, à refuser d'emprunter tel ou tel chemin, à proclamer le nom de Jésus et à décider fermement de marcher dans une vie de sainteté. Et donc, c'est motivant et c'est encourageant pour les jeunes.
C'est vrai, c'est vrai. Et je vais vous encourager, les jeunes, si vous décidez d'y aller, à vous préparer, à vous attendre à quelque chose de spécial, parce que vraiment, comme on l'a dit, dans ces événements, vous pouvez vraiment vivre quelque chose de fort. Donc, préparez-vous dans la prière et attendez-vous à Dieu. N'y allez pas simplement, on va passer du bon temps, mais il y a vraiment quelque chose de spécial que Dieu peut déposer pour vous pendant ces réunions. Merci beaucoup, Annabelle. On retrouve Nadine la semaine prochaine pour ceux qui se demandent. Nadine sera avec nous la semaine
prochaine. Et je m'en réjouis.
Et tu t'en réjouis. Mais tu seras aussi avec nous, Annabelle, mais plus pour la rubrique culture et médias.
Je m'en réjouis aussi.
Et chérie, pour terminer, tu avais apporté ton livre de Finet et tu venais nous lire un petit extrait pour les pasteurs, tu me disais.
Oui. Alors là, on quitte la thématique jeunesse, on rentre dans la thématique de...
Non, mais Finet n'est pas jeune.
1800...
Il est mort, en fait. Hein.
C'est un Finet Frank qui l'a amené un puissant réveil aux États-Unis.
Oui, dans le Nord-Est.
C'est ça, et au point tel que les gens qui arrivaient dans les villes où il était, étaient même saisis en sortant de... en rentrant dans la ville, en fait, tout simplement, par le Saint-Esprit convaincu de péché. Et il a écrit un chapitre pour les pasteurs. Je vais juste lire rapidement deux petits paragraphes où il parle au pasteur de l'époque et il dit « Ma longue expérience me permet d'affirmer que la seule voie pour que nos églises ne rétrogradent pas, ne se refroidissent pas, consiste à persuader profondément les églises qu'elles doivent absolument parvenir à se purifier de toute souillure de la chair et de l'âme en achevant leur sanctification dans la crainte de Dieu. Tout effort pour excuser le péché, toute tentative d'affirmer l'impossibilité pratique d'atteindre la perfection dans cette vie, constitue les erreurs les plus grandes et les plus désastreuses qui puissent être inculquées aux églises. Comme l'a dit un auteur anglais il n'y a pas si longtemps, aucune erreur n'est aussi destructrice et aucune ne doit être aussi fermement dénoncée que celle qui consiste à dire que les chrétiens doivent s'attendre à pécher pendant leur vie. Je supplie mes frères, les prédicateurs, de prendre un autre chemin. J'exhorte aussi l'Église à vivre dans la sainteté. Je veux faire connaître que Dieu nous demande d'obéir à sa loi et à son évangile. Faites-le aussi connaître, mes frères, et vous verrez que vous apporterez une vie de résurrection à vos églises.
Amen. Petit mot à nos amis pasteurs qui nous écoutent. Dauphiné, que tu nous as gentiment lu parce que tu semblais penser que c'était nécessaire de le lire.
Oui, oui, oui. D'ailleurs, le pasteur Marcello Tunassi, qui est un pasteur qui prêche beaucoup la sainteté, la sanctification, la plupart des pasteurs lui ont dit « Tu verras, tu n'auras jamais une église à succès en prêchant ce message qui prédomine dans son ministère. Et aujourd'hui, c'est le ministère francophone qui a le plus de croissance. » Et il dit « Je suis la preuve vivante qu'en prêchant la vérité de la parole de Dieu dans son ensemble, même la sainteté, que ce n'est pas un message qui fait fuir les chrétiens. Au contraire, le peuple de Dieu a besoin de ça. »
Amen, amen. Vous l'aurez compris, la sanctification est non négociable, non optionnelle, mais elle est terriblement importante. Et nous, nous allons nous retrouver demain. Nous parlerons guérison, guérison divine. Reçois ta guérison. Aujourd'hui sera notre thème du jour. Et nous aurons notre dernier épisode de C'est mon histoire avec le pasteur Marcel Poiménan qui est venu nous raconter comment ça se passe quand le Saint-Esprit le saisit pour la guérison des corps. Si vous êtes malade, vous connaissez des gens malades, regardez cette émission. Le pasteur Marcel, à la fin, va prier pour vous et je crois vraiment que le Saint-Esprit va se déverser. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.